Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant, « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Et une fois à la maison, Jésus leur demandait, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Frères et sœurs, bonjour. Dans le judaïsme du temps de Jésus, on attendait un Messie, un Sauveur. Ce Messie devait être celui qui allait prendre le pouvoir et libérer le peuple de ses ennemis, particulièrement les Romains. On attendait une sorte de général qui allait guider l'armée vers la victoire. Une fois les ennemis du peuple vaincus par ce Messie, ce dernier serait proclamé roi. À la cour du roi, ceux qui étaient assis à sa droite avaient beaucoup de pouvoir dans le royaume. Marc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, décrit très bien ce qui se passait au temps de Jésus et qui se passe encore aujourd'hui. Lorsqu'il rapporte la réponse des disciples à la question de Jésus, « De quoi discutiez-vous en chemin? » Les disciples gardent le silence, un silence honteux, je dirais, parce qu'ils avaient discuté pour savoir qui serait le plus grand, c'est-à-dire qui serait le plus important, qui serait assis à sa droite. Il y avait dans le cœur des disciples une soif de pouvoir. Les disciples n'avaient pas encore compris la nature du royaume que le Christ voulait instaurer. Cette soif de pouvoir, frères et sœurs, elle existe également aujourd'hui. Dans notre Église, il y a de ces disciples qui, parce qu'ils détiennent l'autorité, se croient supérieurs aux autres. Ce sont parfois des prélats qui se réclament de leur autorité canonique ou bien des théologiens qui sont convaincus détenir la vérité sur Dieu. Dans la société également, on retrouve par exemple des incroyants qui affirment détenir la vérité sur l'inexistence de Dieu parce que souvent ils ont eu une expérience frustrante dans leur enfance. Donc, que ce soit dans le domaine politique, scolaire, au travail ou dans les relations interpersonnelles, on veut se mettre en position de force. On veut dominer l'autre. Et si l'on pousse plus loin la dynamique du pouvoir dans les relations humaines, on obtient ce que Saint Jacques décrit dans l'extrait de la deuxième lecture d'aujourd'hui. Que dit-il? La jalousie, les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Et si l'on pousse encore plus loin le désir de pouvoir et de domination qui habite l'être humain, on obtient la guerre et les conflits. Saint Jacques, dans sa lettre, en explique la provenance. Il dit, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises. On ne peut douter que l'une de ces convoitises, est la recherche de pouvoir. Enfin, toute guerre, tout conflit a des victimes. Ces victimes sont la plupart du temps des personnes innocentes qui ont le malheur d'être coincées entre deux belligérants. Ils n'ont aucune part dans le conflit. Je pense aux enfants subjugués par le divorce de leurs parents. Je pense aussi aux chrétiens qui, en Syrie et ailleurs au Moyen-Orient, sont persécutés simplement parce qu'ils sont chrétiens et se voient obligés de fuir leur pays. Chacun de ces chrétiens est le juste qui souffre, dont parle la première lecture. Alors, comment Jésus voit-il les choses, lui? Alors, il prend un enfant et le place au milieu d'eux et dit, « Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Dans le monde ancien, l'enfant est aimé de ses parents, comme aujourd'hui d'ailleurs. Il est voulu, car il témoigne que Dieu a béni les parents en leur donnant une postérité. Mais l'enfance n'est pas placée sur un piédestal dans la société juive. L'enfant n'a aucun droit. Il est à la merci des grandes personnes. On ne le considère pas. Il n'a pas le droit de parole. Il représente donc celui qui est le plus faible, le plus petit, le sans défense, le vulnérable. L'enfant que nous présente Jésus est donc représentatif de ceux et celles qui, dans notre société d'aujourd'hui, sont les plus faibles, les plus petits. Le message de l'Évangile a retenti dans le cœur des personnes qui ont compris ce message. Je pense à Pierre Claver, qui est venu en aide à des esclaves en Colombie. À Pierre Damien, qui a choisi de vivre avec des lépreux. À Raoul Folleraud et son épouse, qui ont fait beaucoup pour lutter contre la lèpre. Je pense naturellement à Mère Teresa, qui est venue en aide aux mourants et aux nécessiteux en Inde. Ces personnages du 20e siècle ont aidé des personnes qui étaient dans une situation de faiblesse. Ces personnes, affaiblies par leurs conditions de vie ou la maladie, frères et sœurs, ce sont eux les enfants dont Jésus parle. Aujourd'hui encore, des personnes ont compris. Ces personnes distribuent de la nourriture aux itinérants. D'autres, tels que Piquet Souban, offrent de leur argent à un hôpital pour enfants. Des médecins donnent quelques années de leur vie pour aller pratiquer dans les cliniques médicales des pays pauvres. Ces gens ont compris que si l'on veut être le premier, il faut être le dernier et le serviteur de tous. Frères et sœurs, j'ai moi-même travaillé une bonne partie de ma vie auprès des enfants et des jeunes dans les écoles de l'Ontario. Ce qui m'a fasciné chez eux, c'est la pureté de leur regard. C'est l'absence de malice préméditée. C'est leur capacité de s'émerveiller devant les choses qui échappent souvent aux adultes. Et leur totale dépendance aux adultes qui les entourent. Lorsque Jésus nous prévient que si l'on ne devient pas comme les petits-enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux, il ne nous demande pas de renoncer à notre maturité d'adulte ou à la sagesse que nous avons acquise avec le temps. Il nous demande tout simplement, comme les enfants, d'accepter de dépendre de Dieu, de dépendre de lui comme le seul qui peut nous guider vers la vie éternelle qui nous a été mérité par Jésus le Christ. Je voudrais terminer, frères et sœurs, en paraphrasant une réflexion d'un exégète français. Un exégète, un mot difficile à dire, c'est celui ou celle qui tente d'interpréter la parole de Dieu pour le temps d'aujourd'hui, le 21e siècle. Alors, cet exégète a écrit « L'Évangile d'aujourd'hui met en scène les disciples qui discutent qui sera le plus important, le plus grand. » Et Jésus leur donne en réponse un petit enfant. Dieu n'aime pas habiter chez ceux et celles qui veulent être les plus grands. Cet enfant que Jésus leur montre, c'est une façon aussi de montrer une dimension de la résurrection. On l'a entendu dans l'Évangile d'aujourd'hui, au début, Jésus parle de sa mort. Et pourtant, il nous montre un enfant. C'est que la mort de Jésus sera une naissance. Et si ce petit enfant, c'était chacun de nous? Amen.